Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet un petit peu plus détaillé. On va être capable d'aller plus en profondeur, donc ça va être un petit peu plus long que quelques balados précédentes. Je reviens dans le fond sur un cas qui... Je vais vous expliquer pourquoi j'y reviens, parce que je l'avais complètement abandonné. J'avais cessé d'y croire. Et je vais vous expliquer tout ça. Tout simplement, d'abord commencer par le fait que, un petit contexte important, en 2010, j'ai créé le site internet, le blog, si on veut, historiquement logique, sur lequel, bon, j'écrivais surtout sur l'histoire et plein de choses comme ça, mais j'ai fini par me consacrer uniquement à ma passion, là, c'est-à-dire les dossiers judiciaires, les affaires non résolues et résolues, bon, tout ça. Reconstituer des faits criminels. Donc, j'avais créé une page sur ce site-là qui n'existe plus, mais bon, qui se présente sous une autre forme. Une page qui, j'essayais de répertorier le plus de cas non résolus le possible. Ça n'existait pas avant ça. Aujourd'hui, il y a quelques affaires. Il y en a qui prétendent en avoir trouvé plusieurs. Donc, j'ai entendu le chiffre de 200 quelques dossiers. Bref, j'ai pas terminé, puis j'en ai beaucoup plus que ça jusqu'à maintenant. En fait, j'ai été contacté plusieurs fois par plusieurs personnes à travers les années. Ça n'a pas toujours abouti à des articles par la suite ou des informations publiques. Parfois, c'est resté mort, comme on dit, parce que l'information n'en valait pas la peine. Parfois, oui, mais les gens ne voulaient pas trop en parler. Bref, cette personne-là m'a contacté pour me dire que, dans mes cas non résolus, j'étais le seul à parler d'un cas en particulier, c'est-à-dire une femme qui avait été retrouvée morte. On disait qu'elle avait été noyée à l'époque, là, mais bon, on verra que ça n'a pas été le cas. Mais on l'avait surnommée la Noyée de 1953, la Noyée de Rivière-des-Prairies, dans la région de Montréal. Donc, j'étais le seul à parler de ce cas-là. C'est ce qui était très possible, là. Moi, je répertoriais mes cas à gauche et à droite à force de mes recherches, là. C'était pas nécessairement ciblé là-dessus. Et de fil en aiguille, elle m'explique qu'on finit par se parler au téléphone. Et elle m'explique qu'elle a une hypothèse pour expliquer ce meurtre-là. Donc, c'est évidemment, j'ai été surpris, parce que là, on parle de 1953, c'est quand même loin dans le temps. Et elle, selon sa théorie, ben, elle avait déjà un bon bout de travail de fait. Et selon sa théorie, ce serait une de ses tantes qui était apparemment disparue à peu près à la même époque. Et cette tante-là s'appelait Marie-Paul Rochette. Elle m'a envoyé une photo de Marie-Paul, justement. Et bon, bref, si on peut le dire comme ça, je suis tombé en amour instantanément avec Marie-Paul, la Marie-Paul de 1953, parce qu'elle était vraiment belle. C'était une très belle femme. Donc, j'ai été piqué au vif. Je voulais en savoir plus, évidemment. Bon, ce qui était intéressant dans cette histoire-là, c'est que c'était effectivement plausible. La seule crainte qu'elle avait de sortir l'histoire, c'est ce qu'elle m'a dit à l'époque, c'est qu'elle craignait encore que le mari de Marie-Paul Rochette soit vivant, parce que là, elle avait perdu tout contact avec du côté de cette famille-là. Donc, en 5 minutes, j'ai vérifié avec mes bases de données, et effectivement, le monsieur en question était décédé en 97. Donc, voilà, ça la libérait. Je pense que c'est ça qui a donné un petit coup de pouce là, à ce qu'elle sorte de façon plus... avec plus de confiance. Tout ça pour faire un résumé, ben, on s'est quand même parlé beaucoup, on s'est rencontrés, j'ai essayé d'en savoir plus, tout ça. On s'est même retrouvés dans le bureau du coroner en chef à Québec. Expérience très intéressante en passant. Mais j'ai finalement décroché, et vous allez dire pourquoi, l'histoire est super intéressante, mais j'ai vérifié tout ce que je pouvais faire de mon côté. Comme je l'ai dit, je suis pas enquêteur, mais je suis quand même capable de trouver pas mal d'affaires. Et plus elle me parlait, elle, sa théorie, c'était que son mari avait tué, Marie-Paul Rochette avait été tué par son propre mari. Donc on parle d'homicide entre conjoints, là. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt, parce que ça prend toute son importance. Et bon, Il y a eu une phase là, qu'elle aurait, Marie-Paul, été internée en institution, peut-être. Et l'autre partie, c'était les fameuses lettres que son mari se serait compromis en écrivant ces lettres-là, se serait compromis sur ses intentions de tuer Marie-Paul. Mais les lettres, moi, je les ai jamais vues. Apparemment qu'elles sont sorties plus tard quand elle a fait une balado avec un journaliste plus connu. La balado s'appelle, je pense, L'ombre d'un doute. Bon, ça a popularisé l'affaire un peu, tout ça. Mais moi, je m'étais retiré parce qu'à un moment donné, j'ai dit, écoute, au téléphone, j'ai dit, je t'arrête. Dans tout ce que tu me dis, il n'y a aucune preuve. Mais vraiment aucune. Il y a beaucoup d'hypothèses, il y a beaucoup d'allégations, mais il faut des preuves. Et moi, j'en voyais plus aucune. Donc, oui, c'est comme si j'avais étudié une piste super intéressante. On se lance comme je le disais dans une balado précédente, à un moment donné, il faut avoir l'honnêteté de si notre piste aboutit pas ou que, elle peut être super intéressante, on peut s'être investi beaucoup là-dedans. Mais à un moment donné, il faut avoir l'honnêteté de dire, OK, cette piste-là ne mène nulle part. Même si j'ai mis beaucoup d'efforts dans ça, il faut arrêter. À un moment donné, il faut décrocher, comme on dit, parce qu'il y en a qui ne décrochent pas. Et je ne parle pas uniquement de cette affaire-là. Et ça devient des tristes affaires, si on veut, là, les gens fabulent dans tous les coins et tout ça. Donc, moi, je me suis retiré de cette affaire-là. J'avais écrit quelques articles à l'époque et tout ça. Bon, bref. Oui, c'est intéressant, mais bon, voilà, c'est à peu près tout. Mais il faut quand même pas berner le public non plus avec des histoires rocambolesques. Déjà que c'est très difficile de résoudre des cas qui datent de quelques années, en 1953, là, bref. Et les tests ADN ne pouvaient pas être possibles non plus parce que la victime de 1953 avait été mise dans une fosse commune. Donc, tout ce qui est ADN, on oublie ça en partant. Alors, il n'y avait plus de possibilité vraiment, là. Tous les détectives qui avaient travaillé sur cette affaire-là sont décédés. Bon, il reste plus rien finalement. Évidemment, les affaires, j'y reviens, les affaires non résolues, c'est très délicat. Faut pas, premièrement, faut éviter de donner espoir aux familles des victimes, à qui que ce soit, parce que bon, on veut, nous autres aussi, on aimerait ça, évidemment, en régler les affaires. Mais à la façon qu'on a de les traiter aussi, il ne faut pas faire laisser croire qu'on peut résoudre des dossiers que la police n'a pas réussi à résoudre. Faut quand même pas se penser. Ça, c'est les amateurs ou ceux qui commencent dans le domaine vont avoir cette tendance-là, vont penser qu'ils sont capables de régler des choses que la police. Ça, c'est mal connaître les dossiers et la façon de travailler des policiers et surtout les pouvoirs que les policiers ont. Parce qu'il y en a beaucoup plus que nous, simples civils, pour enquêter. Et quand je dis simples civils, j'inclus aussi les enquêteurs privés. Parce que les enquêteurs privés ont beau dire ce qu'ils veulent, ils n'ont pas accès, ils ne peuvent pas demander de mandat pour des fouilles, par exemple, plein de choses. La plupart ne sont pas entraînés aux techniques d'interrogatoire. Et bref, voilà. Les enquêteurs de police sont toujours les mieux placés pour élucider les affaires de meurtre. Et quand on dit meurtre, là, c'est les pires crimes qui peuvent se produire dans notre société. Donc, comme on dit, on niaise pas avec ça. Mais comme je le disais, sur le nombre de toutes les affaires résolues ou non que j'ai croisées en 32 ans de recherche dans les archives ou ailleurs, ou bon, bref, j'aurais pu moi aussi exploiter ce filon-là, mais je suis vraiment mal à l'aise dans le fait d'exploiter le public et d'essayer d'y faire croire si moi j'y crois pas. Ça donne absolument rien. Oui, ça aurait été vendeur de dire d'exploiter ça puis de dire c'est quand même une histoire très intéressante. C'est un peu comme l'affaire de Dupont à Trois-Rivières aussi, le fameux policier qui s'est suicidé, mais qu'on essaie de passer ça pour un assassinat grandiose et que tout le monde, les niveaux de gouvernement sont impliqués. De ce côté-là, oui, ça pourrait être une super de belle histoire. Une histoire de complot, surtout. Mais une histoire complexe et tout ça. Bon, mais finalement, quand on n'a pas de matière, on n'a pas de matière, il faut quand même pas l'inventer comme certaines personnes ont fait. Alors, si on revient à la base des vraies preuves, ben, il reste plus grand-chose. Il faut juste être capable de l'admettre à un moment donné. Il y a cette tendance-là aussi qui m'irrite avec le temps, c'est les affaires, la façon qu'on a de traiter les affaires criminelles de manière désinvolte, juste pour susciter l'intérêt du public. Il y en a qui vont dire, ben, pourvu qu'on en parle, c'est ça l'important. Non. Pourvu qu'on en parle, c'est un peu d'encourager l'incompétence. C'est comme de dire à ses élèves, ben, c'est pas grave si t'as pas une bonne note, t'en as parlé. Ben là, c'est ridicule. Parle-en comme du monde. Prépare ton dossier comme il faut. Puis, bon, bref, il y aura peut-être moins d'écarts de conduite, moins de psychose sociale. En tout cas, bref. Et pourvu qu'on en parle, oui, mais de façon professionnelle. Donc, si je reviens à mon affaire de 1953 jusqu'aux dernières nouvelles, ben, ça n'a jamais été résolu, malgré les balados qui ont pu être tendancieuses ou essayer de faire croire à une piste en particulier. Et je vais l'appeler la piste Marie-Paul Rochette parce que c'est ça qu'on essaie de démontrer, c'est que la victime de 1953, c'était Marie-Paul Rochette. Donc, voilà, il n'y a rien là, qui prouve là, que ça n'a pas été résolu, cette affaire-là. Ça, enlevez-vous ça de la tête pour ceux qui pensaient ça, là. Et pour ceux et celles qui pensent qu'on peut le résoudre, je vous le dis tout de suite, je vais être honnête avec mon public. Moi, c'est l'objectif dans ma politique la plus importante, c'est ça, c'est d'être honnête envers vous. Je ne la résoudrai pas, l'affaire. On ne commencera pas par ça. C'est impossible. En tout cas, moi, je vous le dis, je vous fais aucune promesse de ce côté-là. Par contre, il nous est promis de. Un peu comme le profilage psychologique va le faire au niveau des tueurs en série, par exemple. Mais bon, ça fonctionne aussi avec d'autres types de crimes. Un peu comme le profilage le fait, ben, ce que je me suis aperçu, c'est pour ça que j'y reviens et je vous explique pourquoi. Pourquoi j'y reviens à l'affaire de 1953 de cette femme-là, qu'on n'a jamais su qui elle était finalement. C'est ça qui est un peu triste aussi dans cette chose-là. Au moins si on savait qui elle était. C'est ce que je me suis aperçu. Mon projet de DHQ, donc de Dictionnaire des homicides du Québec, qui vise à répertorier tous les homicides. Alors, pourquoi j'y reviens à l'affaire de 1953? C'est que. Mon projet, qui dure quand même depuis déjà plusieurs années, mon projet de dictionnaire des homicides commis au Québec, donc le DHQ, qui vise à répertorier tous les homicides commis au Québec, peu importe l'époque, donc j'englobe de 1608 jusqu'à nos jours, donc depuis la création de Québec. La seule limite que je me mets, c'est géographique, donc je reste à l'intérieur du Québec. Et puis, après avoir travaillé plusieurs années déçu, au cours des fêtes dernières, les fêtes de 2022 à 2023, en remettant certaines choses en place, l'idée m'est revenue naturellement de la victime de 1953. Et une nouvelle piste est apparue, simplement en remettant les choses dans l'ordre chronologique. Et je vous le dis, je vais peut-être leur dire quelquefois, dans une enquête, le fait de remettre les faits dans un ordre chronologique, c'est tellement important. Et c'est là que j'en étais, justement. Donc, j'en étais à répertorier les homicides depuis la Nouvelle-France jusqu'en 1953. Donc, j'en étais là, à cette étape-là, en décembre 2022 à peu près. Dans mon brouillon, là, parce que bon, je vous expliquerai pas tout comment ça fonctionne, mes recherches, là, parce que ça serait compliqué, puis je vais vous perdre, vous allez vous endormir. Mais en arrivant en 1953, au fameux cas de la femme non identifiée, là, je me suis aperçu d'un élément fort important et automatiquement, pour moi, ça devenait une nouvelle piste. Et qui n'avait absolument rien à voir avec Marie-Paul Rochette. Donc, on oublie ça. On oublie ce qu'on a entendu et on remet les compteurs à zéro. Et vous allez voir que, bon, la piste qui a été présentée dans la balado à l'ombre d'un doute, c'est basé sur beaucoup de oui-dire et tout ça. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Comme la mienne, j'admets pas que la mienne est meilleure, sauf qu'elle va peut-être être plus logique parce qu'elle vient sur des bases. Bon, plus objective, il y en a qui ne l'admettront pas, Mais la théorie de Marie-Paul Rochette, c'est une enquête tunnel. Il fallait absolument s'en aller vers l'option Marie-Paul Rochette. Il n'y en avait pas d'autre option. Fait que c'est ça qu'on appelle une enquête tunnel. Tandis que moi, peu importe qui, si on découvre demain matin que c'est Marie-Paul Rochette, tant mieux. Si on découvre que c'est une autre personne, que c'est Henriette Lamy, ben, tant mieux aussi. Moi, mon but, c'est d'être honnête et, bon, essayer de se diriger vers la vérité. Donc, je vais revenir un peu sur les faits d'abord de 1953. Le 5 octobre 1953, ce sont des employés d'Hydro-Québec qui travaillaient sur un barrage de la rivière des Prairies qui ont découvert le corps d'une femme qui flottait à quelques pieds de la rive. Le cadavre était enveloppé dans une robe de nuit et entièrement ligoté. Il y avait aussi un bloc de ciment qui était encore attaché à son cou. Et on croit qu'il y en avait un autre qui était attaché à ses chevilles, mais que celui-ci, bon, s'était détaché peut-être avec le courant ou tout ça. Il avait peut-être été moins bien fixé. Et en se détachant, ben, c'est peut-être ça, c'est ce qu'on croyait, qui avait permis au corps de remonter à la surface. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de ce peu d'informations? C'est quand même surprenant, mais on peut en déduire déjà quelque chose. C'est que ce corps-là n'était pas prévu d'être découvert. Si on a vraiment attaché deux blocs de béton, c'est qu'on ne voulait pas qu'elle remonte à la surface. On espérait qu'elle se décompose avant. Puis bon, tout ça, que ce soit jamais révélé finalement, cette affaire-là. Mais puisque ça a été non résolu, ben, les auteurs du crime s'en sont quand même sortis, entre vous et moi, là. Quant à la victime, on sait que la tête était enveloppée par des bandelettes de tissu. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. La décomposition avancée a laissé croire que le meurtre remontait à plusieurs mois. Ça, retenez ça va être important dans la suite des choses. Donc, ça faisait quand même plusieurs mois qu'elle était dans l'eau. L'autopsie qui a été pratiquée par le célèbre docteur Jean-Marie Roussel, j'en parlais précédemment, il était déjà très expérimenté en 1953. Lui, il a déterminé que l'âge de la victime se situait entre 25 et 35 ans. Et que finalement, elle n'était pas morte noyée, comme certains journaux l'avaient surnommée, mais elle est morte étranglée. Et en dépit des efforts de la police, bon, évidemment, on a enquêté assez fort là-dessus. On n'a jamais identifié la pauvre femme qui a été retrouvée en 1953. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ben, en 2016, il y a une théorie là, qui est apparue là, comme quoi que c'était Marie-Paul Rochette et blablabla. Mais que, bon, là, avec mes recherches, je vais vous présenter une nouvelle piste parce que la première n'a vraiment rien donné, malgré ce qu'on laisse sous-entendre dans la balado, l'ombre d'un doute. Par ailleurs, retenons seulement, là, parce que je vais vous raconter une autre histoire avant d'y revenir. Donc, retenons seulement que cette mystérieuse victime a été étranglée, donc de 1, et de 2, qu'elle était âgée entre 25 et 35 ans. Finalement, notons aussi qu'il y a eu mise en scène dans cette affaire-là. Et quand je parle de mise en scène, je me base ici sur les travaux de John Douglas dans son Crime Classification Manual. Je dis son, mais bon, il n'est pas tout seul à écrire ça. Dans ce volume-là, on décrit la mise en scène, tout ça. Donc, la mise en scène, c'est quand même important parce qu'il y a certains crimes qui n'en ont pas du tout de mise en scène. Par exemple, dans une bagarre, dans un bar, qui tourne mal, donc un des deux tombe, des deux bagarreurs tombe et puis il se cogne la tête puis il meurt. Donc, il n'y a pas de mise en scène là-dedans. C'est juste un homicide bête là, qui est arrivé comme ça. Mais ici, la mise en scène, c'est que premièrement, on présume qu'il y a quelqu'un qui s'est déplacé parce que le corps a été jeté à la rivière, il était emballé et tout ça. Donc juste le fait qu'elle ait été emballée, ligotée et même on a ajouté du poids pour qu'elle cale au fond. Donc ça demande, il y a quand même une bonne mise en scène dans ça, là. On a voulu l'éloigner vraiment d'un lieu quelconque. Par exemple, là, est-ce qu'elle a été abattue Je vais y revenir plus tard, là, pour pas révéler mes pistes tout de suite. Mais à quel endroit qu'elle a été tuée, qu'elle a été étranglée? Est-ce que c'est dans sa chambre à coucher ou ailleurs? Et que là, on la retrouve dans la rivière. Donc, voilà. Donc, c'est tout ça, la mise en scène. Donc, ça implique probablement une automobile, parce qu'on s'est déplacé pour venir l'acheter là. Donc, voilà. On va juste garder ça à l'esprit, là. Et juste le fait que le corps a été déplacé puis enveloppé, ben juste le fait d'être déplacé, déjà, c'est de la mise en scène. Par exemple, si un mari déplace le corps de sa femme pour faire croire quelque chose dans la maison, là, parce que ça vient d'arriver, bon, c'est de la mise en scène. C'est pas de la mise en scène au même niveau qu'un tueur en série qui veut laisser un message, par exemple, avec de la morbidité ou de la... tout ce que vous voudrez, on n'en est pas là, mais on parle quand même de mise en scène. Parce que, en fait, en fin de compte, le principal but de la mise en scène, c'est de brouiller les pistes ou de faire en sorte que le corps ne soit jamais retrouvé. C'est ça de la mise en scène. Donc, c'est là que j'en viens à ma fameuse piste qui s'est présentée tout à fait naturellement. Je m'y attendais, mais vraiment pas du tout. C'est en travaillant sur mon dictionnaire des homicides que ça m'est apparu tout d'un coup quand je suis justement rendu à cette année-là, 1953. En date du 5 octobre 1953, je peux dire avec le DHQ maintenant qu'il y a un seul cas d'homicide connu qui impliquait un corps qu'on avait jeté à la rivière et délesté par du poids. Un seul. Donc ça, on n'y aurait pas pensé avant parce qu'il fallait répertorier tous les homicides commis avant. J'ouvre une petite parenthèse. Cependant, je prétends pas avoir répertorié tous les homicides. J'en ai un bon paquet. Plusieurs centaines pour ce qui est de 1953 et avant. J'en ai plus que ça en réalité. Là, j'en ai peut-être... je dois frôler à peu près le 3000 dossiers, mais je n'ai pas terminé. Mais avant 1953, il y a un seul cas. Qu'on retrouve. Donc, les corps n'étaient pas habituellement, avant cette date-là, surtout les corps de femmes, c'était pas habituel qu'on les retrouvait ligotés, enveloppés comme ça et jetés à la rivière. À moins que ce soit quelqu'un qui était des femmes suicidaires qui se jetaient à la rivière, mais à ce moment-là, elles n'étaient pas enveloppées, puis elles n'avaient pas un bloc de ciment au cou. Donc, le seul dossier avant elle qui présente les mêmes similitudes, c'est en mars 1953. Donc, on n'est pas tellement longtemps avant, là. Là, on est quelques mois, à peu près le temps que l'inconnu de 1953 a séjourné dans l'eau. On a parlé de plusieurs mois tantôt. Donc, est-ce que ça s'est passé en même temps? On va voir. Donc, ce cas-là, en mars 1953, on a découvert le corps de Charles Wagoner. Cette affaire-là présente les... Écoute, il y a un parallèle intéressant avec ça et on va le voir pourquoi. Donc, Charles Wagoner, qui se faisait surnommer aussi le Kid, c'était un homme de 26 ans et lui, on l'a retrouvé sans vie le dimanche 29 mars 1953. Son corps, il était maintenu au fond d'un ruisseau par une pierre de 250 livres. On voulait pas qu'il remonte finalement. Et tout ça, on l'a retrouvé, lui, à Saint-Mathieu-de-la-Prairie. La cause du décès, il avait reçu une balle en pleine tête. Donc, pour lui, c'est différent, là. C'est pas la même cause de décès. Mais pour les gars, souvent, c'est rare que les hommes, surtout d'une certaine force, vont décéder par strangulation. Selon la police, il se pouvait que Wagoner, qui était considéré comme un garçon de table à cette époque-là, dans un débit clandestin de Montréal, jusqu'à il y a un mois, donc c'est le statut qu'il avait officiellement, ait été victime des amis de Aaron Marks, qui lui avait été poignardé à mort il y a à peu près 3 ans plus tôt, au cours d'une querelle dans un débit clandestin. Donc, déjà, on embarque un peu dans la petite pègre ou le milieu du crime organisé, si on veut. C'est le petit milieu de la pègre là, des années 50. Là, on en voit, il commence à y avoir quelques règlements de compte. Donc, voilà, c'est exactement dans ça qu'on plonge. Donc, c'est complètement différent. Donc, en raison de la présence de ce fameux bloc de 250 livres, la police a d'abord pensé à l'époque que Wagoner avait été tué par plus d'une personne. Évidemment, c'est quand même pas quelqu'un tout seul, là, on se l'imagine assez mal, là, qui s'occupe de tout ça. Et on excluait aussi le vol parce qu'on a retrouvé dans ses poches la quantité en liquide de 60 $ et aussi ses papiers d'identité. Ça c'est. Comment je dirais ça? C'était peut-être pas brillant pour l'époque, là, au niveau du crime organisé. Ça s'est amélioré par la suite. Des victimes, beaucoup plus tard, qu'on trouvait, c'était rare, là, qu'ils avaient leur papier d'identité sur eux. Ce qu'on disait à l'époque dans les journaux, c'est que l'affaire Wagoner, c'est celle qui a mis à jour l'activité de la pègre à Montréal. Donc, Wagoner, selon certains rapports, il aurait vécu de contrebande. Donc, c'était vraiment un petit, comme on appelait certains là, un petit pégreux. Il aurait été aussi connu comme un désorganisateur de groupes adverses dans le monde de la pègre. Donc, il foutait le trouble un peu partout. Donc, c'est sûr qu'il ne devait pas être aimé de tout le monde. Et c'est ainsi qu'il se serait livré au vol de camions de la contrebande. Wagoner a déjà été arrêté à Toronto aussi pour trafic de narcotiques. Et sa mort serait l'œuvre de gens de la pègre. Ça, c'est ce que les journaux disaient, évidemment. Mais là, ça semble assez évident. Ensuite, Jim Rogers et Frank Battaglia ont été arrêtés et accusés du meurtre de Wagoner, mais ils ont été acquittés par la suite. En avril 1954, Battaglia a été lui-même assassiné à son tour, dans des circonstances mystérieuses, mais bien différentes de celles entourant la mort de Wagoner. Donc, rien à voir avec le fait d'être ligoté puis d'être jeté à l'eau. Évidemment, Wagoner a été tué dans une méthode bien différente, comme on vient de le voir. La mise en scène est très similaire à celle de la femme qu'on retrouvera quelques mois plus tard. Donc, c'est ici là, que le lien commence à être intéressant. Et aussi, dans le meurtre de Wagoner, on a assez d'éléments pour dire assez juste, là, de façon assez juste, que son meurtre, ben, c'est un meurtre par contrat. Donc, dans la catégorie des meurtres par contrat. Donc, c'est du fait du crime organisé, évidemment. Je l'expliquerai plus tard là, dans la classification des homicides. Il y a quatre grands groupes qui se divisent en plusieurs sous-groupes, là, si on veut. Mais les quatre plus grands, c'est l'homicide par entreprise criminelle, donc souvent relié avec le crime organisé. Pas nécessairement, on va voir, mais. Ce groupe-là, c'est le deuxième plus grand importance qui produit des homicides. Le premier, c'est les homicides à motivation personnelle, c'est-à-dire souvent bon, les couples, le parricide, le matricide, les meurtres d'enfants, bon, tout ça. Et ensuite, on a deux groupes qui sont plus rares. Ce sont les homicides sexuels et les homicides cautionnés par des groupes. Donc, pour terminer avec M. Wagoner, ben, malheureusement, lui non plus, son meurtre n'a jamais été élucidé. Maintenant, on va parler de mode opératoire et de disposition des corps. Depuis la fondation de Québec en 1608 jusqu'à la fin de 1952, il n'y a pas un seul meurtre commis impliquant une telle mise en scène. Donc, comme je disais tantôt, il n'y en avait tout simplement pas. C'était pas une méthode. Est-ce que c'est une première tendance de la pègre pour se débarrasser des corps? Est-ce qu'on s'inspirait de certaines choses américaines, par exemple, pour jeter les corps à l'eau, pour les mettre le plus loin possible, pour plus les voir finalement? On voulait plus rien savoir. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on n'en voit aucun en plus de 300 ans. Puis là, tout d'un coup, en l'espace de quelques mois, en 1953, on se retrouve avec deux cadavres délestés dans un cours d'eau, ça fait curieux. Et on pourrait faire même un autre rapprochement parce que, si on se souvient bien, l'autopsie disait que la femme de la rivière des Prairies avait été tuée, sa mort, dans le fond, remontait à plusieurs mois. Donc, peu après, il y a à peu près 6 mois entre les deux, là, entre Wagoner et elle, sauf que Wagoner est identifié, donc on sait c'est qui. qui sépare les deux découvertes de la mystérieuse femme du 5 octobre. Donc, si est-ce qu'elle serait morte en même temps, possible, ou dans la même période de temps, est-ce que la PEG est en train de faire un petit ménage interne et bon, elle y a passé elle aussi. Là, vous allez vous demander pourquoi, mais à travers le temps, à cette époque-là, c'était vraiment pas fréquent, par contre. Mais à travers le temps, il y a certaines femmes qui. Bon, les femmes ne sont pas toutes tuées par des tueurs en série, là. Enlevez-vous ça de la tête. Il y en a qui sont retrouvées avec des balles dans la tête, justement. Puis, soit des prostituées qui en savaient trop, ou des petites amies de truands qui en savaient trop aussi, ou qui ont été témoins de certaines choses qu'ils n'auraient pas dû voir. C'est possible. Mais ça aussi, ça se multiplie à travers le temps. C'est. On n'en parle pas malheureusement. On va souvent prendre les cas de non résolus de les victimes féminines, si on veut, mais qui ont tendance à vouloir développer sur des cas, mon Dieu, des meurtres sexuels, si on veut. Mais ces femmes-là qui avaient une vie assez mouvementée, ben on dirait qu'on s'y intéresse pas. C'est très malheureux parce qu'on passe à côté de quelque chose, là. Et c'est sûr que j'en conviens, c'est des enquêtes peut-être plus difficiles à mener, parce que si on tombe dans le crime organisé, c'est pas que c'est dangereux, mais oui, ça l'est, mais c'est aussi très complexe à remonter la piste à ce moment-là. Et en plus de tout ça, je me dis, la victime de la rivière des Prairies, son âge a été estimé entre 25 et 35 ans, donc c'est à peu près. Là où elle aurait pu être la petite amie de Wagoneer, c'est exactement l'âge aussi que les jeunes femmes ont quand elles gravitent dans le milieu de la PEG. Après ça, c'est soit qu'elles meurent jeunes ou qu'elles sortent de là. Après, là, dans la quarantaine ou dans la cinquantaine, elles sont beaucoup moins actives à ce moment-là. Donc, on pourrait même se poser la question. La victime de Rivière des Prairies, est-ce qu'elle était la petite amie de Wagoneer? Est-ce qu'elle était une danseuse nue de cette époque-là qui gravitait autour de lui? Est-ce qu'elle était une prostituée même? On le sait pas. Mais moi, je trouve que ça commence à faire des questions pas mal plus intéressantes et plus logiques, même si on manque d'éléments là, plus détaillés, si on veut. Mais il faut se méfier aussi quand on a trop de détails. Parce que quand c'est trop bien expliqué, un peu comme dans ça fit trop bien, là, comme dans la version de Marie-Paul Rochette, ben des fois ça match plus. C'est ça, il faut faire vraiment attention, là. Voilà, c'est mieux de rester avec une piste moins expliquée, mais qui est plus vraie à quelque part. Ensuite, il y a l'aspect aussi que. Bon, la version Rochette présentait que elle avait été tuée par son mari. Ça aussi, c'est très important à décortiquer, parce que selon cette théorie, admettons là, que la femme de 1953 avait été tuée par son mari. Il faudrait à ce moment-là admettre que son époux était le meurtrier, puis qu'il se soit donné beaucoup de mal, évidemment, pour l'envelopper et se débarrasser du corps. Or, jusqu'en 1953, comme je le disais, tous les crimes que j'ai répertoriés me permettent maintenant d'affirmer que j'ai jamais trouvé un seul cas impliquant un mari ou un conjoint qui se soit débarrassé de sa femme de cette façon-là. Donc, la plupart, oui, il y a eu de la mise en scène déjà, mais c'était pas grand-chose. C'était, mettons, déplacer le corps du salon à la cuisine ou des petites banalités comme ça. Juste arranger le corps parce que, bon, la plupart des hommes intelligents savent que s'ils tuent leur femme, ça va être eux qui vont être questionnés en premier. Donc, ils vont essayer d'orienter l'enquête vers quelqu'un d'autre à ce moment-là. Et aussi, je vais vous donner quelques chiffres qui vont peut-être vous en convaincre. C'est qu'avec mon DHQ, bien évidemment, ça me permet de dresser certaines statistiques, certains pourcentages et tout ça. Et là, on se retrouve avec la catégorie, parce que si la théorie de la Rochette, évidemment, c'est par le conjoint. Donc, on va l'analyser en même temps. La catégorie des conjoints. C'est-à-dire le meurtre par un conjoint, faut le séparer d'abord en deux, c'est-à-dire par un meurtre par les par un conjoint suicidaire et aussi par les non-suicidaires. Dans 35,5% des femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou un ex-conjoint, parce que quand je dis conjoint, j'inclus aussi les ex, là, des fois ils se sont séparés, ça fait pas longtemps. Et cela depuis 1608 jusqu'à 1953. Celui-ci était suicidaire alors que les non-suicidaires sont plus nombreux dans une proportion de 64,5%. Donc, ça veut dire que tous les crimes de cette catégorie-là, de 1608 à 1953, ben 35% étaient faits par des conjoints suicidaires, donc qui voulaient se tuer aussi en même temps que leur femme. Et puis bon, le 64% qui reste, c'était par des maris qui n'étaient pas suicidaires. Ensuite, on va éliminer la première catégorie, les suicidaires, parce que selon la théorie de Rochette, évidemment, ben, il n'était pas suicidaire. Il est mort, le mari de Marie-Paul est décédé en 97. Donc, parmi les conjoints non suicidaires qui assassinent leur épouse, ils utilisent une arme blanche dans 27,5% des cas, une arme à feu dans 25% des situations, et ainsi de suite. Dans 20% de ces crimes, des crimes de cette catégorie, on retrouve de la mise en scène. Donc, il y a juste un petit 20% de mise en scène. Toutefois, cette mise en scène n'a rien à voir, comme je le disais tantôt, avec l'affaire de la victime du 5 octobre 1953. C'est vraiment... sinon, ce serait vraiment une première. Là. On n'a jamais vu ça. Pour se débarrasser de celle-ci, on imagine assez facilement l'implication d'une voiture. Comme je le disais tantôt, c'est sûr que ça prend un véhicule là, pour aller s'en débarrasser loin de la maison ou loin d'un autre lieu. Et probablement aussi la présence d'une deuxième personne. On ne se le cachera pas, là. Par contre, les conjoints meurtriers n'agissent pas de cette façon-là. Ils agissent seuls. Encore une fois, c'est un autre élément important, je trouve, pour nous éloigner de la fameuse théorie qu'on nous a présentée. Ça colle pas. Comme je le disais tantôt, la mise en scène que le conjoint, quand il commet son crime tout seul, s'il fait de la mise en scène, ben c'est beaucoup plus simple. Il va déplacer le corps, il va déplacer des petits objets pour créer un scénario qui éloigne les soupçons. Il va essayer de placer ça à sa façon. Mais ça, ici, évidemment, on parle des conjoints assassins qui ont le plus de, je dirais, de sang-froid parce que il y en a beaucoup qui commettent, on se le cachera pas, là, c'est pas tous des monstres non plus. Mais il y en a qui commettent leur crime, et puis quand un coup que leur conjointe est décédée, ils vont se réveiller, puis là, ça va être la panique. Donc souvent, ceux qui paniquent n'auront pas le temps de faire de mise en scène. Donc si on fait de la mise en scène, normalement, c'est parce qu'on a un petit fond de, tu sais, peut-être de méchanceté, un petit peu plus. Donc ça explique aussi la mise en scène par le fait qu'ils sont pas suicidaires, parce qu'eux autres, ils veulent pas mourir, ils veulent s'en sortir. C'est ça l'objectif. Et juste une parenthèse aussi, c'est que dans les conjoints qui sont suicidaires, ben justement, parce qu'ils sont suicidaires, ben il y a zéro mise en scène. J'en ai trouvé aucun cas de conjoint suicidaire qui tue sa femme puis qui a fait de la mise en scène. Pour lui, il n'y en a pas de mise en scène. Il s'en va là avec une idée, il la tue, puis après ça, il se tue. Et dans un gros pourcentage aussi, il utilise une arme à feu. Donc, c'est beaucoup plus de détermination à ce moment-là. L'autre élément qui pourrait nous intéresser aussi, c'est le lieu de la scène de crime. Chez les conjoints non suicidaires qui assassinent leur conjointe, ben, les victimes sont assassinés généralement chez elles dans une proportion importante de 75% et même plus. Mes chiffres ne sont pas terminés, mais jusqu'à maintenant, c'est ça que ça me donne comme chiffre. Donc, c'est pas rien. 75% sont assassinés à la maison, dans un cadre, je dirais, connu. Le tueur s'y sent plus à l'aise aussi. C'est soit la résidence qui lui appartenait, qui lui appartient encore, ou où il est allé visiter sa conjointe. Donc, c'est un endroit qu'il connaît très bien. En fait, même John Douglas, l'un des auteurs du CCM3 et ancien profileur du FBI, a dit que lorsqu'une femme, en fait, est retrouvée morte chez elle, on devrait automatiquement commencer l'enquête par le conjoint ou l'ex-conjoint. C'est aussi clair que ça. Donc, c'est quand même pas rien, c'est important, parce qu'à l'inverse, vu qu'on parle ici d'un corps qui a été retrouvé dans une rivière, puis on sait que c'est pas un suicide, ben là, il faut aller vers autre chose. La théorie du mari ne tient plus tant qu'à moi, là. Ça colle vraiment plus, là. Donc, on en revient encore une fois à Charles Wagoner, qui a été le premier cas d'un corps jeté à l'eau avec un poids dans les mêmes circonstances. Dans le fond, la seule chose qui n'est pas pareille avec le corps de la femme de 1953 et Wagoner, c'est la façon dont ils ont été tués. Donc, elle a été étranglée et lui a été tiré. Par balle. Donc, c'est juste le moyen qu'ils ont été tués. Donc, puis on ne sait même pas où le crime a eu lieu. C'est probablement que le meurtre a eu lieu. Les deux meurtres ont eu lieu ailleurs. Donc, la méthode est différente parce que, bon, la strangulation pour une femme, c'est plus facile pour un homme. En tout cas, je ne vais pas embarquer trop dans la psychologie à 5 sous, là. Mais c'est ça, elle a peut-être été étranglée dans un contexte plus particulier. Et après ça, c'est sûr qu'ils n'ont pas été jetés au même endroit. Mais la façon, après ça se ressemble beaucoup. Ils ont été enveloppés, ils ont été délestés d'un poids et conduits probablement, si on imagine, c'est sûr que ça prendrait quelqu'un pour les aller conduire avec un véhicule et probablement 2 personnes ou plus. Donc, si on en vient à ça, on s'éloigne énormément de la théorie du conjoint qui soit suicidaire ou pas. Et on se rapproche évidemment plus de la théorie de la pègre, du petit crime organisé, de l'époque. Ça nous ramène vraiment à une autre catégorie de motivation, pour ce qui est du ou des tueurs à ce moment-là. Donc, elle n'a pas été assassinée par son mari ou quoi que ce soit, là. Comme je le disais tantôt, ça nous ramène. Est-ce que la victime de la rivière des Prairies était la copine d'un mafieux, une danseuse ou une prostituée qui en savait trop? Ce sera d'ailleurs le cas en 1965, j'en ai trouvé d'autres, pour une femme qui en savait trop sur le meurtre non résolu de Régent Lavoie. À cette époque-là, ben, il y a une femme qui a été sauvagement battue et laissée pour morte. Elle a survécu. Mais dans les journaux, on en parlait, et puis, bon, bref, tout ça pour dire que le crime organisé, quand qu'ils ont affaire à se protéger, et il y a même une catégorie d'homicide pour ça, c'est le profit commercial, c'est-à-dire qu'ils tuent pour le profit commercial, pour le profit de l'organisation, pour protéger l'organisation. Pas si vous me comprenez. Mais si elle est une menace parce qu'ils pensent que, bon, elle peut parler, elle peut. Se vider son sac auprès de la police, ça peut n'importe quoi, ou le simple doute qu'on a sur elle, mais eux autres, ils n'en ont rien à foutre, là, c'est pas plus compliqué que ça, ils vont y mettre une balle dans la tête, puis ça finit là. Et puis, si vous croyez que ma théorie ne tient pas la route, ben écoutez, elle tient pas plus la route que les autres, que l'autre principale théorie qui a été présentée, parce on a juste embelli les coins. Si on peut dire, il y en a qui font des balados avec plus de moyens que d'autres. C'est sûr que quand on a une société d'État en arrière de nous qui nous aide à financer nos balados, ça aide beaucoup. C'est un peu ça. On va chercher plus de détails. Mais au fond, une enquête, ce serait tellement. Dans le fond, une vraie enquête, ça va se faire bien plus avec un calepin et un crayon, puis une bonne dose de réflexion. Il y a des gens, malheureusement, qui. Bon, la réflexion, c'est très dur à calculer. Il n'y a pas de concours sur le sens critique, là, mais il faut y aller avec ça. Donc, moi, je suis pas mal certain que ma théorie en vaut aussi la peine qu'une autre, et même probablement plus, parce que elle permet pas d'identifier la victime de 1953, et c'est pas le but non plus. Mais on comprend que la vieille théorie du mari là, qui voulait se débarrasser de sa femme, ben ça tient pas, ça tient vraiment pas. Faudrait regarder plus. Si c'était à recommencer aujourd'hui, ben faudrait probablement regarder plus du côté du crime organisé. Et aussi, c'est peut-être pour ça que les enquêteurs de l'époque ont eu tant de difficultés à l'identifier. Si c'est une danseuse ou une prostituée qui vient d'ailleurs, ben c'est difficile. Ou c'est un milieu aussi que les parents perdaient la trace de leurs enfants. Si elle allait danser à quelque part, ça faisait des années qu'elle avait peut-être pas été vue par ses parents. Puis elle disparaît, puis ils savent même pas c'est qui. Ils savent même pas qu'elle a disparu. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a plein de possibilités de ce côté-là. Et aussi, on se le cachera pas, tout ce qui est crime organisé, ben, c'est difficile à enquêter. Il y a beaucoup de crimes non résolus en lien avec le crime organisé. Donc, c'est ça. C'est ce qui rend un peu, je pense, la chose très, très, très complexe. Et pour terminer, je reviendrai surtout sur le fait aussi que le mode opératoire qu'on voit là avec Wagoner et l'inconnu de Rivière-des-Prairies, ben le fait d'avoir été ligoté et délesté dans un cours d'eau, juste ça, ça semble même être une invention de l'entourage de Wagoner, là, les petits bandits qu'il y avait à cette époque-là. Malheureusement, dans les deux cas, la méthode aussi n'a pas fait ses preuves parce que de la façon qu'on s'est débarrassé du corps de Wagoner et aussi de la femme de Rivière-des-Prairies, on devait pas retrouver les corps parce qu'on a mis du poids justement pour qu'elle cale au fond et tout ça. Et dans les deux cas, on les a quand même retrouvés. Bon, dans le cas de la mystérieuse inconnue, ça a pris peut-être quelques mois avant qu'on la retrouve, là, mais au départ, on ne devait pas les retrouver. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que le crime organisé par la suite a encore changé ses méthodes. Et je vais même jusqu'à penser, là, c'est peut-être un peu loin, peut-être farfelu, mais des années plus tard, souvent, tu sais, le crime organisé s'inspire de ce qu'ils ont déjà entendu entre eux, puis des fait que est-ce que c'est possible que les motards, à une certaine époque, là, dans les années 70-80, quand on les retrouvait dans des sacs à couchage, que ils ont voulu s'inspirer de cette époque-là, des années 50, mais en essayant de l'améliorer à leur façon avec les sacs de couchage, mais encore là, on les retrouvait quand même. Bref, pour terminer, je présente pas ma théorie comme meilleure qu'une autre, mais je pense que elle permettra pas évidemment de trouver c'est qui. Je penserais pas. Je serais vraiment surpris là, qu'on me suggère un nom pour expliquer qui était la victime de 1953. Mais c'est plus logique. On n'arrivera pas à résoudre complètement l'affaire, ni encore moins à trouver le ou les tueurs. Là, ça, c'est oublier ça, surtout de la part du crime organisé. Tout le monde a fermé sa gueule là-dessus. Et voilà, et je pense plus qu'il reste quelqu'un de vivant pour savoir connaître une rumeur ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est la plus logique, c'est la piste la plus logique et la catégorie d'homicide. C'est plus relié évidemment à une sorte de contrat. Est-ce qu'elle en savait trop? Probablement. Ou elle faisait plus l'affaire de certaines personnes. On ne saura jamais. Mais voilà, c'est triste parce que il y a peut-être quelle personne se cachait sous cette identité-là. Y a-t-il quelqu'un qui l'attendait à la maison? Est-ce que une mère ou un père s'inquiétait pour elle? On le saura jamais. C'est triste, mais bon. Alors tout ça pour vous dire que les théories, la classification des crimes prend son importance ici, je pense. Est-ce que le DHQ, le fait de travailler là-dessus, va me permettre de trouver d'autres pistes? Des fois, c'est juste de s'orienter vers la bonne piste. Je pense qu'avec l'enquête tunnel qu'on a faite avec Rochette, ça n'a pas été la bonne affaire du tout. Même si elle est intéressante, il y en a qui vont continuer à y croire, là, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Mais c'est ça, c'est est-ce que, bon, mais le fait de classifier les crimes va nous permettre, je pense que oui, va nous permettre d'être plus clair. Si, par exemple, on étudie un certain, je sais pas moi, plusieurs dizaines de crimes de la même catégorie et qui sont tous résolus, tout est réglé, et qu'ils se ressemblent, on voit les modes opératoires semblables et tout ça. Et que, bon, il y a plusieurs similitudes, et qu'à un moment donné, on tombe sur un cas qui n'est pas résolu encore, ben on va peut-être avoir un doute à cause de tel élément dans l'enquête ou dans la situation ou les circonstances qui entourent le crime. Alors oui, plus on va avancer, je pense, ça ne sera pas des avancées épouvantables, mais je pense que petit à petit, on peut arriver à comprendre un peu mieux ce qui s'est passé. J'y reviens encore au néonaticide, mais quand on retrouve un bébé dans une poubelle, automatiquement, on sait maintenant que c'est un néonaticide, que c'est une mère, une jeune mère âgée de 25 ans et moins qui a caché sa grossesse à son entourage et tout ça. Donc, on sait déjà un peu qui rechercher. C'est quand même pas rien. Donc, est-ce qu'on va faire le même travail, est-ce qu'on aura les mêmes résultats aussi pour les meurtres entre conjoints, les fameux féminicides? Est-ce que ça pourra faire avancer les choses? Peut-être, je ne sais pas. Mais ici, c'est sûr que ce n'est pas un féminicide dans le sens que un conjoint soit impliqué. Je suis presque sûr que on sait que le rôle de l'enquêteur, c'est de travailler sur les faits, je l'ai déjà dit. Eh bien, si on était en octobre 1953, ben moi, personnellement, je commencerais par explorer la piste de la pègre, et en particulier celle de l'entourage de Wagoneer. Alors là-dessus, je vous laisse ça sous bonne réflexion, et à la prochaine. Bye.